depuis la crise avec l'Ukraine et la Russie, de toute façon, l'Europe investit de plus en plus dans les énergies renouvelables. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. En Chine, la croissance des énergies renouvelables est absolument phénoménale. Un pays comme le Pakistan, qui avait été très durement touché par la crise en 2022, s'est aussi tourné vers les énergies solaires. Alors oui, effectivement, si on prend en compte l'augmentation de tout ce qui est renouvelable et cette addition, ça pourrait effectivement remplacer le gaz. Mais ça veut dire aussi qu'on estime que la demande électrique n'augmente pas. Bon, c'est un calcul qui est un petit peu difficile à faire. Pour le moment, il va falloir compter effectivement avec les énergies renouvelables, en espérant qu'on n'a pas des phénomènes de ce qu'on appelle le dunkelflaute, c'est-à-dire des périodes sans vent, ce qui nous a un petit peu embêtés au cours des dernières années. Il faut aussi espérer que nos niveaux d'hydroélectricité vont être convenables. En France, ça va, mais j'ai cru comprendre que dans l'Est de l'Europe, ça ne serait peut-être pas tout à fait le cas. Et aussi que toutes nos centrales nucléaires fonctionnent. Ça sera, par contre, ça, la grande différence par rapport à 2022, où, alors, comme vous vous souvenez sans doute, on faisait face à des problèmes de corrosion et de maintenance qui avaient fait qu'une grande partie du parc nucléaire français n'était pas disponible.
En attendant, le Premier ministre israélien promet d'arrêter ces attaques contre les infrastructures énergétiques. Les Européens demandent un moratoire. On verra effectivement ce qu'il en sera dans les prochaines heures. Merci beaucoup Anne-Sophie Corbeau d'avoir été avec nous sur RFI. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Center on Global Energy Policy à l'Université de Columbia aux États-Unis.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Quel rôle joue le secteur de la tech dans les guerres qui font rage, notamment au Moyen-Orient et en Ukraine? Guerre des données, de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, des moyens colossaux sont déployés au service des armées, mais les rapports avec les géants de la tech ne sont pas si simples.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
À l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Le nickel fait partie des minerais de la transition écologique, notamment pour les batteries des voitures électriques. En quelques années, l'Indonésie en est devenue le leader mondial. Yann Chavance est allé voir les conséquences de son extraction dans la péninsule de Sombori.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Il est 7h30 à Paris, une heure de moins à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
Merci d'écouter RFI. La suite, c'est le journal Afrique avec Nemo en piste. Et à la une, le Sénégal. Nemo bien décidé à jeter toutes ses forces dans sa bataille contre la CAF.
Oui, après la décision du jury d'appel de la Confédération d'inverser le résultat de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération va saisir le tribunal arbitral du sport alors que le gouvernement avait demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Une coopération nécessaire et qui doit se poursuivre. Les chefs d'état-major des armées ivoiriennes, françaises et béninoises étaient réunis à Cotonou pour faire un point sur leur lutte commune contre le terrorisme. Une nouvelle assignation devant la justice pour Tidjane Thiam, président du PDCI en Côte d'Ivoire, et c'est un des cadres de son parti qui lance la procédure. Il estime que Tidjane Thiam, qui vit en France depuis un an, est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Et puis à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, on vous présente la seule ville du Nigeria où le français est plus utilisé que l'anglais. On y mélange également des mots en yoruba ou en baoulé. Bienvenue à Ejigbo, ce sera le dossier de ce journal.
Les Sénégalais donc ne lâchent rien un peu plus de 48 heures après la décision du jury d'appel de la CAF de leur retirer leur titre continental.
Gouvernement, fédération et supporters, bien sûr, plus déterminés que jamais à garder leur trophée. Hier, lors d'une conférence de presse, les dirigeants de la fédération de football ont une nouvelle fois rejeté le verdict de la CAF et ont dit avoir mandaté une équipe d'avocats pour saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, la plus haute juridiction sportive. RFI Dakar, Léa Lisa Vesteroff.
Dans une ambiance électrique et une salle remplie de journalistes, au pupitre, les trois membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, comme pour faire bloc, répètent la position officielle. Le rejet de la décision de la CAF, le Sénégal reste l'unique vainqueur sur le terrain de cette CAN 2025. Abdoulaye Fall, le président.
Nous savons pertinemment que sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur tapis vert et on ne peut pas retirer ce titre au Sénégal. Maintenant, le Sénégal restera debout et va légitimement défendre cette victoire sur le terrain.
Et pour obtenir gain de cause, une équipe d'avocats est chargée de saisir le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Parmi les arguments, le fait que l'arbitre maître du jeu a validé le match. Abdoulaye Seydousso est le secrétaire général de la fédération.
L'arbitre, c'est lui qui a continué la partie. Les Marocains qui ont continué le jeu, ils auraient pu le refuser et invoquer le règlement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ont tiré leur pénalty. Et si ce pénalty était marqué et que le match soit arrêté, aujourd'hui, il n'y aurait pas de plainte. Donc, il faut qu'on soit juste et qu'on accepte le verdict du terrain.
Le tribunal arbitral du sport a 45 jours minimum pour rendre son verdict, mais la procédure pourrait prendre entre 6 et 9 mois. D'ici là, le Sénégal compte bien garder la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Les Lions de la Teranga qui affrontent samedi prochain, le 28 mars, au Stade de France, le Pérou, match amical à moins de 3 mois maintenant de la Coupe du Monde.
Dans l'actualité également, les chefs d'état-major des armées ivoiriennes, françaises et béninoises réunis ce jeudi à Cotonou.
Trois pays qui collaborent depuis l'année dernière dans la lutte contre le terrorisme et qui ont dressé un bilan de la situation sécuritaire dans le nord du Bénin et en Côte d'Ivoire. Les détails de la nouvelle stratégie adoptée sont restés dans les coulisses, mais les trois hommes ont affiché leur volonté de poursuivre leur coopération. A ainsi été décidé de consolider les axes déjà établis tout en ouvrant de nouveau. Le compte-rendu de Jean-Luc Aplogan depuis Cotonou.
La réunion s'est tenue dans l'enceinte de la caserne de Togbin à la sortie de Cotonou. Le dress code imposé était le treillis militaire. Pour justifier ce front commun contre le terrorisme, le chef d'état-major des forces armées béninoises a exprimé la conviction que ce combat ne peut se mener en solitaire. Fructueux Baguidi.
Nous avons essayé de faire face. Il est bon d'essayer de mieux faire face avec des alliés.
Les discours d'ouverture ont cédé la place à deux présentations détaillées sur la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le commandant de l'opération Mirador, déployé dans le nord du Bénin, a dressé le portrait d'un ennemi mobile, perfide, prêt à frapper par surprise. Pour construire une riposte durable, le colonel André Fofo-Dokui plaide pour une coopération régionale pleine et entière.
Pour réussir, c'est la coopération régionale. La présence de la Côte d'Ivoire à nos côtés est un élément essentiel, mais nous en voudrons davantage.
Les trois chefs d'état-major ont salué l'initiative d'une seule voix. Elle est nécessaire et elle doit se poursuivre. Dans quel domaine prioritaire? Le général Baguidi répond.
Il s'agit du renseignement et de la formation de pilotes de nos forces spéciales, des personnels contre la désinformation qui aujourd'hui fait rage.
Sur ce dernier point, le patron de l'opération Mirador, dont certaines voix accusent les rangs d'abrités des soldats français, fait cette mise au point. Tous ceux avec qui je mène la guerre contre les terroristes sont des Béninois à 100%. Fin de citation. Jean-Luc Aplogan, Cotonou. RFI.
La Côte d'Ivoire, où un cadre du PDCI a assigné son propre parti devant la justice pour faire constater, dit-il, la vacance du poste de président. Assignation qui tombe sur une date pour le moins symbolique, le 9 avril prochain, soit le jour où le PDCI fêtera ses 80 ans. Et cette assignation qui vise la légalité de la présidence du parti tenu par Tidjane Thiam, mais qui vit depuis un an hors du territoire ivoirien. Binta Diagne est à Abidjan pour RFI.
Cette assignation est initié par un membre du bureau politique du PDCI, Charles Abiy Tchétché, part d'un constat. Cela fait un an que Tidjane Thiam est en France. S'appuyant sur l'article 40 des statuts du parti, ce militant demande à la justice de reconnaître que Tidjane Thiam est, je cite, dans l'impossibilité matérielle d'exercer les fonctions de président du parti, de convoquer des réunions statutaires et de les présider. Ce cadre évoque par ailleurs de multiples défections qui résulteraient selon lui de l'absence de Tidjane Thiam. Ce militant pointe aussi des décisions prises les jours pairs et annulées les jours impairs. Conclusion, Tidjane Thiam est dans l'empêchement absolu de diriger le PDCI, soutient ce responsable du PDCI à Gagnoa. L'année dernière, après la radiation de Tidjane Thiam sur les listes électorales, des procédures similaires avaient été menées pour remettre en cause la légalité de sa présidence. Tidjane Thiam avait alors démissionné avant d'être élu à nouveau à l'issue d'un congrès extraordinaire convoqué en express. Cette assignation sera rejetée par la justice, croit savoir un cadre du PDCI qui se dit confiant, car plusieurs arguments présentés dans cette assignations ont déjà été écartées dans d'autres procédures judiciaires. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 6h37. L'actualité en bref. Vincent Bolloré sera finalement jugé pour corruption dans l'affaire dite des ports africains. Le milliardaire conservateur français est accusé d'avoir conseillé à moindre coût les présidents togolais Faure Gnassingbé et guinéen Alpha Condé lors des campagnes présidentielles de 2010 dans ces deux pays pour obtenir en retour la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Le procès de Vincent Bolloré est prévue en fin d'année en France.
Aux États-Unis, 3 sénateurs ont déposé un projet de loi visant à considérer le Front Polisario comme mouvement terroriste.
Oui, Clotilde, pour ses relations présumées avec l'Iran à l'heure où la guerre se poursuit au Moyen-Orient. Selon le droit aux États-Unis, les deux chambres du Congrès ne peuvent prendre une telle décision. Elle doit revenir au secrétaire d'État et cette démarche fait évidemment du bruit jusqu'en Algérie, soutien du Front Polisario. Les détails avec Ouda Ibrahim.
Les 3 dépositaires sont des sénateurs républicains, Ted Cruz, Tom Cotton et Rick Scott. Ils accusent l'Iran de tenter de transformer le Front Polisario en Houthi d'Afrique de l'Ouest. Dans leur communiqué, ils expliquent que l'Iran voudrait utiliser le Polisario pour saper la sécurité nationale des États-Unis et de ses alliés. Le communiqué commun désigne déjà le Front Polisario comme organisation terroriste qui soutient ouvertement l'Iran. Des réunions ont récemment eu lieu à Washington et à Madrid. Washington cherche à imposer un accord rapide sur le Sahara occidental. Le pouvoir algérien n'a pas réagi sur cette déposition. L'ancien diplomate et ministre algérien Abdelaziz Rahabi a cependant écrit sur son réseau X qu'il s'agit là des pressions qui visent, je cite, à dépouiller le dossier du Sahara occidental de son caractère diplomatique et à présenter le Front Polisario comme une menace pour la sécurité régionale, ce qui conduit, selon lui, automatiquement à l'inclusion de l'Algérie comme pays soutenant le terrorisme.
Ouda Ibrahim, Algérie encore, et le groupe Sonatrach qui a envoyé cette semaine une délégation au Niger, une visite à Niamey pour concrétiser la relance du projet de gazoduc transsaharien censé relier à terme le Nigeria à l'Algérie. Une visite annoncée il y a un mois lors de la visite à Alger du dirigeant nigérien Abdourahmane Tiani qui avait mis fin à une brouille diplomatique longue de plusieurs mois entre les deux pays. Explication Magali Lagrange.
Au Niger, le pipeline est entièrement à construire. Les représentants du groupe Sonatrach et du ministère algérien des hydrocarbures sont à Niamey pour collecter des données techniques, selon l'agence de presse APS. L'équipe algérienne rencontre des représentants de la société nigérienne de pétrole, la SONIDEP, et du ministère nigérien du pétrole. Ils doivent passer en revue cadre légal, réglementation, autorisation de construction, premières étapes avant les études du tracé de la partie nigérienne du gazoduc transsaharien, un projet ancien dont les premières discussions remontent à 2009, plus de 4000 km à partir du sud du Nigeria, en passant par le Niger pour arriver sur la côte algérienne, d'où le gaz nigérian pourrait être exporté vers l'Europe, avec une capacité prévue de 30 milliards de mètres cubes par an. La phase opérationnelle sera lancée après le mois de Ramadan, précise la Sonatrach, qui vante une coopération sud-sud. C'est aussi le calendrier qu'avait annoncé Abdelmadjid Tebboune le mois dernier. Le président algérien recevait alors le dirigeant nigérien pour tourner la page du coup de froid entre les deux pays. Une crise diplomatique qui avait de nouveau mis le projet en pause durant plusieurs mois.
Magali Lagrange, RFI Matin, l'actualité du continent en bref. En Tunisie, la militante antiraciste Saadia Mosba, condamnée à 8 ans de prison et 100 000 dinars d'amende, soit environ 30 000 euros, dans un jugement rendu tard dans la soirée d'hier. Ses avocats n'ayant pas encore eu accès aux détails du jugement, il est difficile de connaître les motifs de la condamnation, mais elle était jugée sur la base d'accusations de malversation financière. Vous retrouvez plus de détails à la une de notre site internet RFI.fr.
Et puis notre dossier du jour, Nemo, est consacré à la Journée internationale de la francophonie.
Oui, puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars, le français, 4e langue la plus parlée au monde avec près de 400 millions de locuteurs et parmi eux, nombre d'habitants d'Ejigbo, ville située dans le sud-ouest du Nigeria, mais à quelques 350 km du voisin béninois, le voisin francophone. Pourtant, de par son histoire, une grande partie des habitants d'Ejigbo ayant connu l'immigration dans des pays francophones, eh bien, cette ville a construit son propre langage. Détail avec notre correspondante à Lagos, Harmonie Pondinaga.
Un mot en yoruba, suivi d'un autre en baoulé, le tout ponctué de mots en français. C'est le savant mélange qui donne le petit français qu'on peut entendre dans les rues d'Ejigbo, une petite ville du sud-ouest du Nigeria dont la langue officielle est l'anglais. La commune est située à 350 km de la frontière francophone la plus proche. Depuis le début du XXe siècle, les habitants d'Ejigbo émigrent vers les pays francophones comme le Bénin ou le Togo, mais surtout la Côte d'Ivoire. De nombreux habitants possèdent la double nationalité et partagent leur vie entre les deux pays. 3 fois par semaine, des bus parcourent les 1200 km qui relient Ejigbo et Abidjan, à tel point qu'il est commun pour les commerçants ou les restaurateurs d'accepter les francs CFA pour payer une boule d'attiéké, de la semoule de manioc fermentée, un plat typiquement ivoirien qu'on retrouve également à Ejigbo. Le Nigeria, pourtant entouré de pays francophones comme le Bénin, le Niger, le Cameroun ou le Tchad, n'a pourtant que peu de locuteurs du français. L'enseignement de la langue est théoriquement obligatoire jusqu'au collège, mais dans les faits, les professeurs manquent cruellement. Harmonie Pondiniaga, Lagos, RFI.
Notre correspondante qui a interrogé à cette occasion Akambi Mudasiru Iloupéjou, professeur de français, doyen de la faculté des arts de l'université de Lagos, est lui-même originaire des Djibo. Il explique la particularité linguistique de la ville.
À Djibo, les gens parlent déjà un type de français qui est, disons, un français agotique ou bien un français relâché. Et un français, ça dépend de avec qui vous voulez communiquer. Il y a le français standard, c'est-à-dire le français que tout le monde peut bien comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est réservé aux élites, ceux qui sont à l'école, les étudiants, ou bien les ressortissants des pays francophones qui habitent à Edigo. Il y a aussi le français de rue, un mélange de langues nationales, un pays où le locuteur a fréquenté, surtout à Abidjan, où on mélange les langues locales, le baoulé et ainsi de suite. Vous allez voir cette version de français parlé à Edigo. Il y a aussi le français des illettrés, ceux qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont eu à fréquenter les pays francophones et qui sont revenus au pays. Vous allez voir les fautes de syntaxe, des structures banales, mais surtout compréhensibles de toute façon. Au lieu de dire l'homme, ils peuvent dire la homme ou la femme. Quand vous allez au marché, vous allez trouver toutes ces catégories de parler de français. Le français standard, le français familier ou le français... ce qu'on appelle encore du voile de Nussi.
Le professeur Akambi Mudasiru Iloupéjou avec Harmonie Pondiniaga qui signe le dossier de ce journal depuis Lagos.
Merci, mon pis. 6h44 en temps universel. La revue de la presse africaine. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Clotilde. Bonjour à toutes et à tous.
À la une, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France unies contre le terrorisme.
Oui, c'est à la une de Banuto ce qu'il faut retenir des échanges lors de la rencontre des chefs d'état-major du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la France. Échanges qui, nous dit le site d'information béninois, ont porté sur l'évaluation des dispositifs existants, le renforcement des synergies opérationnelles et l'adaptation des réponses face à des menaces en mutations rapides, notamment l'infiltration terroriste, la criminalité transfrontalière organisée et les formes hybrides de déstabilisation. La situation est critique et Banuto l'analyse ainsi. Dans un contexte marqué par la pression croissante des groupes armés aux frontières, les états-majors béninois, ivoiriens et français resserrent les rangs. Ils accélèrent la coordination de leurs actions. Bien sûr, le détail de leur discussion reste secret, mais selon Banuto, la feuille de route s'articule autour du partage de renseignements, de la formation spécialisée ainsi que de la lutte contre la désinformation. Cette rencontre, explique de son côté Afrique.com, intervient dans un contexte régional marqué par la recrudescence des attaques terroristes et par des tensions géopolitiques croissantes au Sahel. Quel est le rôle de la France dans ce contexte? Elle qui a été contrainte de quitter le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, réorganise son dispositif militaire sur le continent, explique Afrique.com. Elle passe d'une présence massive à un soutien ciblé, axé sur la formation et le renseignement.
L'actualité sur le continent africain, Catherine, c'est aussi bien sûr le football, hein, avec les réactions qui continuent de pleuvoir après la décision de la CAF de donner la victoire de la CAN finalement au Maroc.
Décision de la CAF, la Confédération africaine de football, que Wakatsera transforme en comédie africaine de football. Et le site d'information burkinabé pose la question, ça finit quand? Après avoir perdu la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations, jouée contre le Sénégal le 18 janvier, le Maroc se voit offrir le trophée par la CAF sur une décision ahurissante, poursuit Wakatsera, qui visiblement n'apprécie guère ce dernier rebondissement. Quelle que soit l'issue de cette affaire, c'est le football africain qui en sortira assommé, un coup dont il se relèvera avec beaucoup de peine, estime le journal en ligne.
Concrètement, une question se pose, hein, aujourd'hui, le Sénégal est-il prêt à rendre le trophée à la CAF et au Maroc?
Question posée par Afrique Foot, selon qui la situation n'est pas très claire. En effet, nous explique-t-on, Abdoulaye Fall, le boss de la Fédération sénégalaise de football, la FSF, a tenu hier des propos ambigus, estimant notamment que sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce titre, mais ajoutant quelques instants plus tard, on va se conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la CAF, toute notre action va être inscrite dans le respect de ces dispositions. Entre les lignes, commente Afrique Foot, on comprend donc que la FSF n'entend pas faire de vagues et pourrait accepter de rendre le trophée à l'instance panafricaine si elle en fait la demande. L'affaire est maintenant entre les mains du TAS, le tribunal arbitral du sport. Au Maroc, le magazine Tel Quel estime qu'une victoire sur tapis vert n'a pas le même goût qu'une victoire sur le terrain. On pourra dire, remarque le magazine marocain, que la fête n'a pas la même saveur. C'est vrai, un pays préfère toujours soulever une coupe le soir même, pas la récupérer dans les plis d'un communiqué. Mais parfois, dans le football africain, il faut d'abord gagner un match, puis gagner le droit qu'on reconnaisse comment il a été faussé. Le Maroc, cette fois, a dû faire le second choix. En attendant de connaître le verdict du tribunal arbitral du sport saisi par la Fédération sénégalaise de football, conclut Tel Quel.
Affaire à suivre, la revue de presse africaine avec Catherine Poté.
RFI, toute l'actualité.
Clotilde Dumais.
Il est 6h48 en temps universel. Dans un instant, notre invité, le poète Nimrod, qui va rendre hommage à la langue française en cette journée internationale de la francophonie. Ce vendredi 20 mars 2026, avec dans l'actualité également dans le reste du monde de nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban, selon l'agence officielle libanaise ANI. L'État hébreu qui poursuit ses frappes aussi contre l'Iran. Le Premier ministre israélien estime être en passe d'avoir décimé Téhéran. Benjamin Netanyahou assure que les Iraniens n'ont plus la capacité d'enrichir de l'uranium ni de produire des missiles balistiques. De son côté, le président français évoque la possibilité d'un cadre onusien pour une future mission visant à sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz. 6 pays occidentaux dont la France justement se sont dit prêts à contribuer le moment venu. Autre guerre, 2 morts en Russie et en Ukraine. Des frappes russes d'abord ont tué une femme dans le district de Zaporijjia et puis un drone ukrainien a tué un homme dans la région de Belgorod. Dans l'actualité aussi, le dernier jour de la campagne des municipales en France. Second tour ce dimanche dans encore 1500 communes environ, y compris dans la plupart des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Nantes ou encore Strasbourg. 14 titres dans un nouvel album intitulé Arirang. Les fans attendaient ça depuis 6 ans, le retour de BTS. Les 7 membres du groupe sud-coréen viennent de sortir leur nouvel album. Ils sont en concert demain à Séoul, devant près de 260 000 personnes. On va en reparler dans le prochain journal dans un petit quart d'heure environ. Et puis en football, Lille éliminée en 8e de finale de Ligue Europa, défaite 2-0 hier soir contre Aston Villa. Même score et même élimination pour l'Olympique Lyonnais contre le Celta Vigo. C'est la 4e langue la plus parlée au monde. Presque 400 millions de personnes qui pratiquent le français, dont 65% en Afrique, d'après l'Organisation internationale de la francophonie, qui publie justement ces données à l'occasion, ce vendredi, de la Journée mondiale de la francophonie. C'est donc le moment ou jamais pour le poète, le romancier et l'essayiste Nimrod de partager son amour pour cette langue. Lui qui est originaire du Tchad, mais qui travaille et qui vit en France. Il est l'invité de Charlotte Idrac.
Bonjour Nimrod.
Bonjour Charlotte.
Pour commencer, est-ce qu'il y a un mot en particulier que vous aimez dans la langue française ?
Le mot douceur, l'attaque, doux, c'est un peu sombre, comme fermé, et ça s'ouvre à la fin, sœur, douceur. Oh, il y a comme un petit cheminement très très subtil, très très délicat, et écrire c'est ça, c'est faire en sorte que les mots s'accordent.
Est-ce que vous êtes fier, Nimrod, d'écrire en français ?
C'est une question qui tombe sous le sens. J'ai toujours estimé qu'on écrit une langue parce qu'on l'aime, parce qu'on en est vraiment passionné. C'est la plus grande maîtresse qu'on aurait jamais. Je pourrais même dire que c'est ma première langue, alors que c'est une langue apprise à partir de l'âge de 6 ans. Mais ça a fait toute ma vie, parce que tout ce que je peux dire de subtil, de plus secret, de plus grand, dans cette langue-là, je peux assurer mon identité.
Vous avez déjà dit par le passé, c'est votre passeport, cette langue française.
Ah, mais oui.
Et la francophonie, alors, est-ce que ça a un sens pour vous ?
Senghor disait qu'on parle francophone, mais on ne parle pas d'anglophonie. Mais il dit, mais la francophonie, c'est le français tel qu'il se parle dans le monde. Le français, virgule, soleil, et il écrit soleil avec grand S, qui brille hors de l'hexagone. Dans cette phrase, il y a vraiment tout. D'une certaine manière, il dépossède la France et il ne reconnaît le français que pour nous autres périphériques. Et donc, la francophonie, oui, très bien, mais personne ne parle le francophone. Il y a un français tchadien, un français camerounais, un français sénégalais, mais c'est toujours le français. Ce n'est pas le francophone.
Comment est-ce que vous percevez dans votre pays natal, le Tchad, le recul du français ou du français tchadien, comme vous venez de le dire, au profit de l'arabe, de langue maternelle? C'est le cas aussi, ce recul, dans d'autres pays africains?
Je crains que ce soit des choses vraiment idéologiques, pour ne parler que du Tchad. De mon temps dans les années 80, avec la guerre, le français était à un bon niveau, et l'école aussi était à un bon niveau. Aujourd'hui, c'est complètement catastrophique, tout est déstructuré. On parle l'arabe, qui parle arabe? Nous parlons un dialecte, c'est vrai. Nous adorons notre arabe tchadien, qui est une variante de l'arabe soudanais, mais ce n'est pas le grand arabe, l'arabe littéraire, l'arabe du Coran. Non, 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 le français diminue parce que l'école est très, très mauvaise. L'université est très, très mauvaise. Et si nous voulons que nos langues deviennent concurrentielles, c'est d'ailleurs un très mauvais mot, ou du moins collaborent à d'autres grandes langues impériales, mais il faudra s'en donner les moyens. Et d'ailleurs, si le français ne tient pas la route, ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'il n'y a pas des industries culturelles qui vont avec. J'aurais bien voulu écrire dans ma langue maternelle, même si je l'écris, surtout que je viens d'un peuple de 15 000 âmes sur les 20 millions de Tchadiens. Purée.
Dans son dernier rapport, l'OIF, l'Organisation de la Francophonie, indique que la francophonie se trouve à un tournant stratégique de son histoire et indique que la survie d'une langue passe désormais aussi par son adaptation aux algorithmes. Sachant que très peu de contenus en ligne sont en français, 3,5% selon l'OIF, c'est un enjeu. Il y a vraiment une question de survie selon vous?
Pas du tout. Et ceux qui nous parlent d'algorithmes, ils voient leur économie, tout simplement. Ce n'est pas parce que nos référencements ne dépassent pas 3% que ça nous enlève quelque existence que ce soit. Ça fait plus de 40 ans que je vis en exil, mais quand je reviens au Tchad, c'est toujours cette diversité qui s'embrasse, qui se traduit entre elles, qui m'ouvoie. Qui a jamais référencé tout cela? Personne. Ce sont des idéologies économiques. Mais l'économie réelle, elle se fait ailleurs.
Nimrod, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, Nimrod interrogé par Charlotte Hydra qui participe, lui, demain et dimanche au Salon du Livre Africain de Paris. J'en profite d'ailleurs pour citer son dernier ouvrage, un recueil de poèmes, Pavane pour le cimetière de Dembé. Elle s'est paru l'an dernier aux éditions Tarabuste. Quelques minutes, l'actualité internationale sur RFI, mais d'abord, comme chaque vendredi, on retrouve Charlotte Ntamack. Vous nous dites cette semaine, Charlotte, qu'il n'y a pas de calcul plus simple que de compter l'argent dans la poche de quelqu'un d'autre.
Oui, si la comptabilité permet d'enregistrer, de classer ou d'analyser les opérations financières d'une entreprise, ça c'est pour eux là-bas dans le monde de la finance. Pas besoin de faire des études de finance pour maîtriser la comptabilité. Nos villes et villages, quartiers et sous-quartiers, regorgent de comptables en tout genre, pour ne pas dire des comptables d'un autre genre. Quand je parle de comptabilité, d'aucuns se diront, donc, les mathématiques et les statistiques qu'on a fui à l'école, là. La fille, si nous ramène encore ça ici, où je vous imagine écarquiller des yeux en imaginant la complexité des feuilles de calcul Excel. Pourtant, tout le monde peut être comptable lorsqu'il s'agit de compter l'argent dans la poche de l'autre. Man, le gars a fait 3 tournées. Chaque tournée a fait 7 900. À chaque tour, il a donner
10 000 sans jamais demander le remboursement. Même si on me dit quoi, il a encore au moins 70 000 dans la poche. Le calcul de l'argent dans la poche de l'autre est d'autant simple quand le résultat de l'opération serait qu'une partie de cet argent soit soustraite ou divisée de la poche de l'autre pour s'additionner ou se multiplier dans la poche du comptable. Mako, même si sa greffe a coûté 200 000 et qu'elle a payé son loyer même pour 6 mois, elle ne peut pas dire que le million qu'elle a gagné à la réunion dimanche est fini. Elle refuse seulement de me prêter les 200 000 que je lui ai demandé alors qu'elle sait que je sais qu'elle a l'argent. Comme dans tout calcul, il y a des opérations plus complexes que d'autres. L'argent dans la poche de l'autre est parfois calculé et recalculé par un collège d'experts comptables en la matière. Mako, supposons que pendant les 5 ans qu'elle n'a pas mis les pieds au pays, elle cotisait même seulement 100 euros par mois. Ça fait 1200 euros par an, donc au total 6000 euros. Même si son billet a coûté 2000 euros, son appartement 1000 euros, depuis qu'elle est là, elle n'a quand même pas dépensé 1500 euros.